des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous en ce jeudi? En ce jeudi, remarquez, comme on sait maintenant qu'on peut reprendre l'émission à peu près quand on veut sur Internet, ça peut bien être un samedi si vous le voulez. Alors bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois des livres plein les oreilles. Et avec aujourd'hui, le retour de l'enfant prodige. J'ai nommé Gérard Saint-Denis qui est déjà en ligne. Et puis finalement, ça s'est fait. J'ai pu m'entretenir pendant une douzaine de minutes avec Éric-Emmanuel Schmitt. Et en seconde partie, on retrouve également l'adorable Francine Fontaine qui vient nous parler du prix Goncourt 2016. Prix Goncourt d'ailleurs, dont fait partie maintenant Éric-Emmanuel Schmitt. C'est incroyable, hein, tout est dans tout. Allez, on va commencer tout de suite avec Gérard Saint-Denis. Bonjour Gérard.
Bonjour, une éternité madame.
Trop longtemps.
Je m'ennuyais de vous.
Mais, et nous aussi, mais oui. Mais là, je sais que...
Même si vous en avez parlé beaucoup, j'ai une petite tristesse, le décès de notre ami Audomerson.
Ah, Dormesson, Jean Dormesson, ah oui.
J'ai tellement pour lui. Il se rappelle à nos gens là, que ça vaut à peine aller soit sur KF, soit sur le Service québécois du livre adapté,
le SQS,
sur AVH. Il y a tous les livres à peu près que ce bonhomme-là a écrit, et c'est merveilleux.
Absolument. Quelle écriture.
On lui doit cet hommage.
Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup de nous l'avoir rappelé, Gérard. Mais alors vous, aujourd'hui, là, parce que vous commencez par une inhumation, par une triste circonstance, alors que vous allez nous parler d'humour.
Oui, hein? Je pense qu'en période d'hiver,
oui.
De froid,
oui.
De froid puis de redoux, puis de froid puis de redoux, l'humour, ça nous permet d'être capable de se tenir plus en force.
Vous avez tellement raison, Gérard.
C'est merveilleux. Et c'est quand même un élément intéressant, parce que l'humour, ça nous calme. Et je dois vous dire, Chloé, que plus on vieillit...
M'avez-vous appelé Chloé, vous, là?
J'ai-tu dit Chloé?
Ah ben oui, mais c'est pas grave.
Je m'excuse.
Non, mais ça me va bien aussi, Chloé.
Ça vous va pareil?
Ça rime avec T, par exemple. Autrement dit, ça rime à rien.
Non, mais sérieusement, là, plus on apprécie l'humour.
Ben oui.
Plus on la goûte. Et là, j'ai retenu, chez AVH, j'ai retenu des livres qui sont fort intéressants.
D'abord, rappelez-nous, parce qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'AVH, s'il vous plaît. Vous connaissez bien, vous le dites très vite. Alors, rappelez-nous d'abord ce que c'est.
Association Valentin AU, AVH, offre des milliers de volumes de livres accessibles en téléchargement gratuitement dans la mesure où vous envoyez une preuve de votre problème de cécité.
Donc, ça marche comme au SQLA, mais sauf que c'est européen, c'est suisse.
C'est quand même à peu près 1500 livres par année. Le choix qu'on a,
oui.
Et là-dessus, 80% des nouveaux livres qui ont moins de 4 mois de parution.
Oui, je comprends.
C'est
alors,
beaucoup. Donc, ça nous permet pas mal de belles choses.
Donc,
on peut pas avoir... Il y a des belles choses au SQLA, je le connais, puis c'est vrai, c'est merveilleux, mais on ajoute des éléments aussi qui sont un peu plus européens, mais qui sont très intéressants pour nous autres francophones. C'est
alors,
dans ce sens-là.
On fait simplement sur son ordinateur, Gérard, AVH.
Et là, vous avez un endroit où on vous dit comment vous inscrire.
Parfait.
C'est très simple et vous faites vous numérisez votre certificat comme
d'accord.
Quoi vous avez une invalidité visuelle et vous l'envoyez avec et deux semaines après on vous donne un numéro et à partir de ce numéro-là vous pouvez aller chercher
télécharger ce que vous voulez.
Bon. À peu près 25-30 livres par mois.
Eh mon Dieu. Bon.
Et vous avez un accès fantastique.
Bon, très bien. Alors, Gérard, on va donc parler de quelques livres que vous avez trouvés,
oui,
notamment sur AVH,
je parle
humour.
C'est ça, de Bailly, Guillaume Bailly.
Oui.
mes sincères condoléances.
Ah ben tiens, on en parlait.
C'est drôle. Non, mais quand même, c'est des choses d'enterrement. C'est des affaires qui se sont passées à des enterrements, mais quand même, c'est de l'humour. C'est de l'humour qui... C'est pas de l'humour plate, c'est de l'humour raffiné. C'est de l'humour raffiné, là.
Et, avez-vous remarqué que c'est vrai que dans les enterrements, on peut facilement avoir un fou rire?
Ben, Parce qu'il se passe des choses aussi. Vous savez, les films qu'il y a eu avec d'autres que vous connaissez bien, des Français, des films d'enterrement.
Non, mais c'est vrai que...
Où la couronne tombait à la mauvaise place.
Ça, c'est dangereux, monsieur.
C'est intéressant. Humour, il y a ce bonhomme-là.
Bon.
Il y a aussi un des grands maîtres. Et là, il y en a plusieurs de lui. C'est Fournier, Jean-Louis.
Jean-Louis Fournier, oui.
Il ne faut pas le mêler avec Alain. Hein?
Non, c'est pas le même genre de bonhomme du tout.
C'est pas le grand mot, là. C'est Jean-Louis Fournier. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a un livre que j'ai retenu, c'est mon dernier Cheveux noirs. C'est avec quelques conseils. À ceux qui nous écoutent, c'est peut-être intéressant, quelques conseils aux anciens jeunes.
Ah, ben oui. Dont nous ne faisons pas partie, nous, mais ça va venir.
Rapides. Ça, c'est une heure, ça.
Ah oui, en effet.
C'est ça. Là où c'est à 5h30, c'est pas des livres de 12, 15, 16 heures.
Non. Non.
Ça, c'est, et j'inviterais les gens à aller mettre le nom de Fournier puis de voir ses autres ouvrages.
D'accord.
Mouchons nos morveux. Et puis, il y a d'autres choses demain. C'est très, très, très intéressant.
Bon. Alors un autre.
Je veux finir sur un auteur breton.
Ah!
Et je dois vous dire que moi, je suis marié avec la Bretagne. Je suis allé 15 fois en Bretagne. Je suis un amoureux de la Bretagne. J'ai été là très, très, très souvent. J'ai découvert, et tous ceux qui nous écoutent connaissent très bien Simenon avec Maigret.
Ben oui, bien sûr.
Tous ceux qui aiment la littérature de policier le connaissent.
Oui, et le canard, parce que les Maigrets de canard, évidemment, enfin, oubliez ça.
Oui, non, c'est pas le Maigret, c'est Maigret. Comprenez pas, là. Hey, vous avez un sens d'humour aujourd'hui.
Ouais, c'est parce qu'on parle d'humour. Gérard, on parle d'humour, il faut en faire.
Vous avez bien raison. Fayard, F-A-I-L-L-A-R, Jean.
Oui.
Il a écrit une trentaine de romans policiers.
Oui.
Avec comme principal, le personnage de base, c'est Marie Lester, qui est son magret.
D'accord. Oui, c'est son magret à lui, d'accord,
son
magret, oui.
son magret.
Ouais, maigret. Oui. Son maigret, oui.
Et j'ai trouvé les derniers... Vous avez simplement à aller, quand vous allez sur Valentin A.U., vous mettez Jean Feller, vous allez avoir une série de romans.
AVH.
Une vingtaine à peu près, facilement accessible. C'est des romans qui sont brefs, qui durent entre 5 et 6 heures, et c'est toujours une très, très bonne histoire, et ça se passe toujours en Bretagne. Que ce soit Quimper, Douananès, Quimperlé, etc. C'est toujours en Bretagne.
D'accord.
Et c'est bon, c'est bien fait, ça ressemble beaucoup à du Simenon. Ça décrit aussi toute la vie de pêcheur. Parce que moi, j'avais trouvé que la Bretagne, c'était notre Gaspésie en plus chaud.
c'est vrai ce que vous dites.
Ah oui, c'est notre Gaspésie en plus chaud. Mais après, c'est resté aussi la Bretagne avec beaucoup, beaucoup de petits ports un peu partout
où
on peut facilement se rendre. Et là, les histoires tournent alentour de ça.
D'accord.
Et on parle souvent d'histoires de pêche. C'est quand même, vous avez Marie Lester puis son complice Fortin, là. Et une fois qu'on a commencé, on ne voudrait plus lâcher.
D'accord.
Il y a plus de 40 romans qui sont disponibles. Il y a plus de 40. Et c'est vraiment des romans policiers. C'est pas des thrillers. Ceux qui aiment les thrillers vont être désappointés. C'est vraiment ce que j'appelle le concept d'anciens romans policiers.
Oui, ça veut dire qu'on suit un inspecteur.
Un meurtre, deux meurtres, et on essaie de trouver des
assassins
ou l'assassin.
Exactement. Dites-moi, vous n'aviez pas envie de me parler de Montand, raconte Montand aussi? Yves Montand?
Attendez une minute, je vais retrouver ma note que j'avais
je vous prends un petit peu à la gorge,
roman
peut-être.
Un de terroir, non?
Non, je ne sais pas, vous m'aviez dit « Montand, raconte Montand ». Et puis, il y avait aussi...
Ah, c'était une...
Une biographie?
Une biographie, oh oui! OK, Montand, Yves Montand.
Oui.
Montand, raconte Montand, vous avez bien raison.
Bon.
C'est parce que, moi, j'aime pas beaucoup les biographies. Les autres, et celle-là, je l'ai aimée.
Ah oui?
Parce que c'est Montand qui l'écrit. Et c'est quand même exceptionnel.
OK.
Et je pense que ça va à peine. Et c'est court. Ça ne dure pas 7 heures.
Ah, OK.
Et c'est quand même très intéressant. Puis Yves Montand, on l'a connu ce mai des jours. Hein?
Oui.
Il est resté quand même marqué dans notre mémoire collective.
Absolument. Hein? Aussi bien d'ailleurs en tant que comédien qu'en tant que chanteur. Hein? Aussi beaucoup. Hein?
C'est ça. Okay. Et vous pourrez, vous avez juste à mettre mon temps Yves, et puis vous allez voir mon temps, raconte mon temps.
D'accord.
Et c'est bien fait, c'est très bien fait.
Bon, alors je voudrais rappeler que vous, vous en parlez toujours comme de l'association Valentin Huy, mais les gens ont beaucoup de mal enregistrer, mais si vous faites AVH, vous tombez directement dessus, c'est très facile d'accès.
Et puis, vaut la peine, je répète à nos gens, ça vaut la peine de prendre 15-20 minutes une fois pour s'inscrire.
Mais surtout pour les livres étrangers, parce que ici, avec CAEB et SQLA, on a accès vraiment à beaucoup d'auteurs québécois, alors que là-bas, vous aurez accès à beaucoup d'auteurs étrangers.
L'autre élément,
Gérard, j'ai plus de temps.
Je salue tout le monde et je vous dis que je suis en forme pour 2018.
Alors j'entends ça, mon ami, puis ça nous fait plaisir.
Avec quelque chose la prochaine fois, je voudrais vous parler des livres de cuisine.
Ah oui.
Portez-vous bien.
Je vous embrasse.
Bye bye.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. M'abandonne, je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, thank you.
J'ai décidé, juste avant de m'entretenir avec Éric Emmanuel Schmitt, d'entendre la chanson de Claude Dubois, « Si Dieu existe », et ce n'est vraiment pas par hasard. Bonjour, Monsieur Schmitt.
Bonjour.
Ça ne vous surprend sûrement pas, le choix d'une chanson qui s'appelle « Si Dieu existe », juste avant de commencer une entrevue avec Éric Emmanuel Schmitt?
Ah bah écoutez, je crois que ce qu'on a tous en commun, c'est qu'on se pose cette question, est-ce que Dieu existe? Après, nos réponses sont singulières, je dirais même que notre réponse définit chacun de nous, parce que chacun a une histoire différente, une expérience différente, des attentes différentes, des déceptions différentes, des rencontres différentes.
Oui, absolument. Et vous, dans votre cas, il y a, alors entre autres, hein, parmi tous ces livres, ces pièces de théâtre, ces nouvelles que vous avez écrites, il y a ce livre qui est enregistré depuis très peu de temps pour nous, en audio adapté ici, qui est « La nuit de feu ». Et j'ai choisi qu'on parle peut-être plus précisément de ce livre-là au milieu de cette œuvre absolument gigantesque que vous avez produite. Et est-ce que ça vous surprend que j'ai fait ce choix-là, Éric Emmanuel Schmitt?
Mais vous savez, ce livre-là, je me rends compte qu'il est pour beaucoup de gens un des plus importants que j'ai écrit. Mmh. Et moi, c'est celui que j'ai pensé ne jamais écrire. Parce que je suis un homme qui a de l'imagination, donc j'ai pas besoin de raconter ma vie, je peux raconter des vies, de multiples vies, et m'exprimer aussi à travers toutes ces histoires. Mais ce livre-là, il m'a été quasiment réclamé par les gens, d'abord par mes proches et puis ensuite par mes lecteurs, puisque parfois dans des rencontres ou des entretiens, je parlais de ce qui m'était arrivé une nuit de février 1989 dans le Sahara. Et je me rendais compte quand j'en parlais que j'en disais jamais assez, et on me disait toujours écrivez le livre. Alors j'ai pris beaucoup de temps pour l'écrire, et puis j'ai fini par l'appeler La Nuit de Feu, et puis par vous le donner, quoi.
Et il y a une animatrice comblée qui a fini ça cette nuit à minuit. Et à 11h, elle était pétrifiée de peur avec ses serpents à cornes qui vous tournent autour. Et à minuit, je ne peux pas vous dire que j'étais une autre femme parce que c'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir parce que les questionnements que l'on retrouve dans ce livre-là, c'est quand même assez phénoménal. C'est pour ça que je voudrais d'ailleurs que nos auditeurs se ruent peut-être sur ce livre « La nuit de feu » d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous dites deux fois d'ailleurs dans le livre plutôt qu'une, je suis née deux fois, une fois à Lyon en 1960 et une fois dans le Sahara en 1989. Ça a été si fort que ça, hein?
Oui, j'ai comme une naissance de chair en 1960 et puis une naissance d'esprit en 1989 parce qu'effectivement j'avais 28 ans, je suis rentré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Sahara, dans cette partie rocheuse du Sahara, hein, c'est dans le Hoggar. D'ailleurs, c'est pas un désert, c'est des déserts, parce qu'il y a à la fois des moments où c'est un désert de sable, des moments où c'est un désert de rochers, des moments où c'est complètement plat, avec de la terre séchée. Enfin, il y a toutes sortes de déserts. Oui. Mais voilà, j'étais parti pour un voyage d'aventure, une aventure que je croyais une aventure physique et qui est devenue une aventure métaphysique.
Oui, et vous dites d'ailleurs très très joliment au début du livre, à l'évidence, je n'avais pas débarqué dans un pays inconnu, j'avais atterri dans une promesse.
Oui.
C'est magnifique.
Mais vous savez, parfois, quand on arrive quelque part, on se dit, j'ai quelque chose à vivre ici.
Oui.
Quelque chose m'attend. Et c'est vrai, quand l'avion s'est posé à Taman Rasset, j'ai subi une sorte d'enchantement, d'appel... Oui. D'envoûtement en me disant quelque chose m'attend ici. Je savais absolument pas quoi et je n'étais même pas d'ailleurs désireux d'une rencontre mystique.
Non, je comprends.
J'étais tout à fait athée, parfaitement entre guillemets bien dans mon athéisme, en tout cas installé. Et puis comme j'avais fait des études de philosophie, je dirais que cet athéisme, il était construit, il était élaboré, il était argumenté. Et puis tout d'un coup, cet athée que j'étais se perd dans le désert, se perd totalement, sans plus rien avoir à boire et à manger. Et c'est là que la rencontre, la nuit de feu, a lieu.
Ah oui, parce que c'est totalement lumineux, je veux dire, comme écriture, mais surtout comme... comme essence, quoi. Cet homme enlisé là, dans le sable, est-ce que vous allez vivre ? J'en parlerai pas plus parce que je voudrais que nos auditeurs le découvrent, mais vraiment, je leur recommande la lecture de La Nuit de Feu. Éric-Emmanuel Schmitt, s'il fallait que je passe au travers de tous les livres qui sont maintenant enregistrés en audio adapté pour nos auditeurs, écoutez, on n'aurait plus le temps de converser ensemble. Alors, je pourrais pas faire ça. Je voudrais juste leur préciser qu'en 2017, en dehors de La Nuit de Feu, il y a également La Vengeance du Pardon qui a été enregistrée ici, chez nous. Le Chien. Oh mon Dieu, je l'ai pas lu encore ce livre, mais la semaine dernière, il était question du livre de Frédéric Lenoir, qui est cette lettre ouverte aux animaux. Et ça m'interpelle un petit peu, ce Chien, parce que j'ai lu un petit résumé, mais j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Ah, le Chien, c'est l'histoire d'un homme qui a été médecin, qui est très respecté dans son village, qui est en même temps très mystérieux, très silencieux. Ouais. Et ça fait 40 ans qu'on le voit avec le même chien. Alors, évidemment, c'est pas le même, mais c'est un beauceron. Et chaque fois qu'il s'appelle Argos, et chaque fois que son beauceron meurt, eh bien, quelques jours après, il est de nouveau avec un beauceron qui s'appelle Argos. Et au fond, cet homme a l'air d'être plus intime avec son chien qu'avec n'importe quel humain. Et l'histoire commence quand ce chien a été écrasé malencontreusement par un camion. Et son maître, le vieux médecin, 3 jours après, se suicide.
Oh.
Et donc, voilà, le village est en état de choc.
En état de choc.
Le narrateur qui est un écrivain, qui est moi en fait, puisque tout ça se passe dans le petit village où j'ai ma maison de campagne, le narrateur est aussi en état de choc en se demandant pourquoi cet homme qu'il respectait et qu'il aimait, puisqu'il partageait la passion du whisky ensemble, et comment un homme, un médecin qui a vu mourir des humains, peut tout d'un coup décider de quitter la terre parce que son chien a été tué. Mmh. Et du coup, il va faire une enquête et va essayer de comprendre l'histoire de cet homme. Et il va remonter loin dans le passé de cet homme, loin jusqu'au moment de la guerre.
Okay.
Et va découvrir comment finalement cet homme a été sauvé de l'inhumanité par un chien. Mmh. Cet homme a vécu un moment de sa vie où plus personne ne le regardait comme un homme.
Ouais.
Où on le regardait comme un sous-homme. Et c'est un chien, en voulant jouer avec lui, qui lui a restitué son humanité. C'est-à-dire que il y a une phrase dans le livre qui me hante souvent, et qu'en France, beaucoup de gens me lancent quand je suis dans la rue. Parfois, les gens me croisent et puis ils me lancent des phrases de mes livres. C'est drôle, hein, c'est un peu comme dans le film.
Mais ça ne me surprend pas du tout, si vous saviez le nombre de phrases que j'ai envie de vous lancer.
Il y a cette phrase dans le livre qui est... Si les hommes ont la naïveté de croire en Dieu, les chiens ont la naïveté de croire en l'homme.
Oh, c'est magnifique, ça, oui. Mais l'homme de mots que vous êtes, Éric-Emmanuel Schmitt, il y a cette écriture qui est d'une richesse insensée. Je veux dire, c'est quand même pas par hasard. Si vous êtes lu dans à peu près 50 pays dans le monde, si vous êtes joué, aussi interprété, parce que vous êtes aussi dramaturge, hein, n'oublions pas, c'est même le théâtre au départ qui vous a appelé, oui. Je pense, hein.
Tout à fait. C'est mon premier mode d'expression, c'est le théâtre.
Voilà.
J'écris des pièces d'abord.
Voilà. Et en ce moment, alors on sait qu'en 2016, vous avez été accueilli comme membre du célèbre jury concours. Hein. On vous a donné le couvert numéro 2, celui d'Edmond de Charleroux, s'il vous plaît.
Oui, avait été à Sacha Guitry et à Jules Renard.
Oui, exactement.
De carottes.
Mais oui. Alors, il y a, et je voulais juste, il nous reste quelques minutes, je voulais revenir sur le dernier livre qui a été enregistré de vous, en version audio ici. C'est L'homme qui voyait, L'homme, oui, qui voyait à travers les visages, mais c'est pas le dernier. Le dernier, c'est cet entretien que vous avez eu avec Catherine Lalanne. Plus tard, je serai un enfant. D'abord, le titre absolument sublime. Est-ce que vous l'êtes devenu, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Ouais, je suis encore en chemin. Faut encore que je mûrisse mon enfance.
Mais vous êtes bien parti.
Voilà, j'espère. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il y a des qualités spontanées dans l'enfance que l'on perd à l'âge adulte.
Ouais.
Par exemple, la faculté de s'étonner.
Oui.
Et tout d'un coup, on se croit intelligent en étant adulte, en ne s'étonnant plus de rien. Ouais. La faculté de s'émerveiller, bien sûr. C'est-à-dire l'étonnement plus l'admiration. Il faut pratiquer l'émerveillement.
Sans compter, d'ailleurs vous le dites, pardon de vous interrompre, mais dans La Nuit de Feu, on se rejoint tellement à un moment donné quand vous parlez d'un homme qui met des noms sur tout. Alors que vous, à la limite, vous vous en fichez de ces noms. Ce que vous voulez, c'est vous émerveiller. Et ça, c'est une qualité d'enfant.
Oui, oui. Ben, c'est-à-dire il y a un scientifique très angoissé qui veut tout nommer.
Oui, c'est ça.
Il veut mettre des étiquettes sur tout.
Oui.
Parce qu'il a peur d'être dépassé par le réel. Tandis que moi, je voyage dans le désert en étant émerveillé d'être dépassé par le réel et de ne pas avoir assez de mots.
Oui.
Et pourtant, c'est moi l'écrivain. Mais je ne suis pas l'angoissé.
Non, c'est ça. Voilà. Écoutez, Éric-Emmanuel Schmitt, je voudrais préciser qu'on vous appelle en ce moment dans votre théâtre, hein, celui dont vous êtes directeur artistique depuis maintenant quelques années. Est-ce que c'est Marie Tudor en ce moment? Qu'est-ce que vous présentez?
Alors, Marie Tudor, ça continue, de Victor Hugo, un jeune auteur de 29 ans que je vous recommande,
Victor
Hugo.
Un petit jeune qui débute, oui.
Ah oui, très bien. Et non, ce soir, nous avons une première. Ah. Là, dans quelques instants, je vais vous laisser pour aller à la première d'une pièce qui s'appelle « Deux mensonges, une vérité », qui est une pièce du fils de Jean Poiret, Nicolas Poiret, qui a visiblement le talent, c'est héréditaire. Il a écrit une pièce absolument ravissante et très drôle, une comédie amoureuse, pas banale, où il n'y a pas d'histoire d'adultère et tout ça. C'est beaucoup plus fin. Donc c'est
merveilleux.
Je suis très impatient de découvrir ça. Bon. Et puis je mets en scène aussi un spectacle qui commencera dans 15 jours, j'ai adapté l'unique roman de Sacha Guitry, qui s'appelle Les Mémoires d'un tricheur.
Oui.
Et donc j'ai adapté ces Mémoires d'un tricheur pour faire un spectacle qui commencera dans 15 jours.
Alors, avis aux amis en ce moment du Québec qui vont peut-être se retrouver à Paris dans une semaine ou deux.
Il y a très souvent des Québécois dans la salle.
Oui, voyez-vous. Alors, et ça se passe au théâtre Rive Gauche, donc à Paris, dont le directeur artistique Éric-Emmanuel Schmitt, avec qui je m'entretenais à l'instant. Merci pour tous ces livres, merci pour toutes ces pièces, pour ces nouvelles. Merci aussi pour Mozart, ce disque qui m'accompagne régulièrement quand je travaille. Ma vie avec Mozart, eh bien moi c'est un peu ma vie avec Éric-Emmanuel Schmitt quand j'écoute cet album-là. Et bonne soirée, bonne première. Et écoutez, merci encore beaucoup pour les auditeurs de Canal M et de l'émission Des livres pleins les oreilles, Éric-Emmanuel Schmitt, d'avoir répondu à mes questions.
Merci pour votre attention, vraiment.
Rien, au revoir.
Au revoir.
On a réécouté un petit bout de cette chanson de Claude Dubois, « Si Dieu existe », parce que c'est la grande question que se pose Éric-Emmanuel Schmitt dans son livre « La nuit de feu ». Et ça devient plus qu'une question, d'ailleurs, c'est longtemps une question, mais ça devient une réponse après une nuit, cette fameuse nuit de feu que je vous recommande de lire. Là, au moment de l'extrait que je vais vous lire maintenant, il est avec Ségolène, avec qui il a ses profondes discussions sur l'existence de Dieu. Elle est convaincue que ce maître de l'univers existe. Lui, à ce moment-là, ne l'est pas. Et donc, ils parlent ensemble. Et là, c'est lui qui parle. Il dit « La preuve ontologique. Dieu a par définition toutes les qualités, donc forcément l'existence. Dire Dieu n'existe pas est une contradiction. Dire Dieu existe est un truisme. » Elle grimaça, vaincue d'avance. Et on ne saurait passer du domaine des idées au domaine du réel. On confond deux ordres, celui de la pensée, celui de la réalité. L'existence se trouve par l'expérience, non par le concept ou la déduction. Ce qui prospère dans mon esprit ne vit pas nécessairement en dehors de mon esprit. Dieu reste un postulat, un rêve, une envie, un fantasme. Attention à ne pas prendre son désir pour une réalité. Ségolène me regarda, peinée. 20 ans supplémentaires alourdissaient son visage. Sans pitié, je conclus. Les spéculations que j'ai citées sont réfutables. Avec ses seules forces, la raison humaine n'arrive pas à s'assurer de Dieu. Ses prétendues preuves ne sont que des arguments en faveur de Dieu, mais rien ne démontre son existence. Ségolène lui répond, rien ne la dénie non plus. J'ai admis ce point d'un hochement de tête, puis précisait. C'est à celui qui affirme de fournir la preuve. Si je prétends qu'il y a des centaures, je dois étayer mon dossier. Elle dit, celui qui ne veut pas croire déterre toujours des motifs. Il lui répond, celui qui veut croire aussi. Ségolène releva le front, planta ses yeux dans les miens et déclara catégorique. L'absence de preuve n'apporte pas la preuve de l'absence. C'est joliment dit, ça. Des cailloux épars, des fissures, des ravinements annonçaient un oued. Quelques flèches de pierre au loin confirmaient que nous entrions dans le hogar. Devant nous, Abégour s'immobilisa. D'un ample geste du bras, il désignait un creux de roc et de sable pour notre campement. Je renouais avec Ségolène. « Tu as raison. Zéro partout. Dieu n'est présent que sous la forme de sa question. Chaque homme se demande ou s'est demandé si Dieu existe, et chacun répond à sa guise. Le doute sur Dieu, voilà le minimum syndical de la réalité divine. » Elle sourit, en sortant sa gourde, but longuement, lentement, l'eau qu'elle avait puisée à la source. Je m'assis en faisant de même. Après avoir essuyé ses lèvres, elle recouvra des couleurs et sembla rassérénée. Cette question de Dieu qui nous habite tous, dit-elle, constitue davantage qu'une question, c'est une suscitation, c'est un appel. On ne peut chercher que ce que l'on sait devoir être cherché. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Elle se leva, m'adressa un gentil signe d'adieu et alla se choisir un emplacement dans le sable, sereine. Le soir inondait d'ocre le sol. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Je me retins de répliquer, histoire de ne pas l'accabler. Où était-il ce Dieu? Il restait indiscernable à partir de sa prétendue création. La nature ne parle ni de lui, ni pour lui. Je n'avais sous les yeux qu'un univers visible dont l'auteur demeurait invisible. Peu à peu, le ciel et la terre s'enchevêtraient, gagnés par la pénombre. Les contours des montagnes s'étiraient à l'infini, leur relief, leur pointe et leur saillie s'émoussant. Non, décidément, Dieu n'était pas là. Si Dieu avait voulu que je le connaisse, il s'y serait pris autrement, non? L'homme cherche Dieu. Ce qui m'aurait ébranlé aurait été que Dieu cherche l'homme, que Dieu me poursuive. Or cela, je ne l'avais jamais vu. Au contraire de ce qu'insinuait Ségolène, je n'étais pas en quête de Dieu. Je me dressais sur mes pieds et fixais les alentours en ressentant leur immense vacuité. « Et s'il me cherche, qu'il me trouve ?» terminai-je à voix haute, en défiant les montagnes. À cet instant, comment aurais-je pu imaginer que Dieu m'entendait et qu'il me répondrait quelques jours plus tard? Voilà ce qui met un terme à l'univers d'Éric Emmanuel Schmitt pour aujourd'hui et ce livre « La nuit de feu ». Éric Emmanuel Schmitt, hein, qui a été admis, nous en parlions avec lui très brièvement, mais qui a été admis à la table des jurys du prix Goncourt, c'était en 2016. Et nous allons parler avec Francine Fontaine. Bonjour Francine.
Bonjour Clotilde.
Du prix Goncourt 2016. Ouais. Je vous le laisse nous représenter. On en avait parlé brièvement à l'émission, mais justement... trop brièvement. Alors, je suis contente que vous nous en parliez plus longuement aujourd'hui.
Alors, ce prix Goncourt 2016, c'est un prix qui a été attribué à Leïla Slimani. C'était son deuxième roman qui s'appelle « Chansons douces ». Alors, je vous le présente.
Oui.
« Chansons douces », c'est un roman, je dirais, psychologique et social, mais en fait, qui se lit comme un roman policier.
Ah, OK.
Ouais. On est à Paris, on est à notre époque. Mm-hmm. D'entrée de jeu, on se retrouve sur la scène d'un crime. Uh-huh. Deux petits enfants ont été tués et de toute évidence par leur nourrice, par leur nounou, qui a tenté de se suicider.
Par la suite, alors. Okay.
Et en toile de fond, on entend le cri déchirant, insupportable, interminable de leur mère. Okay. Alors, on part comme ça.
Oui, on sent qu'on n'est pas dans l'humour du tout avec ce
non,
livre-là.
Non, on est dans la... on a un coup, là, ça nous prend tout de suite à l'estomac. Le roman de Leïla Slimani est construit comme un puzzle. À chaque chapitre, on collecte des indices
okay.
qui vont nous permettre plus ou moins de reconstituer une histoire. Et au centre de cette histoire, bien sûr, c'est Louise, cette nounou,
d'accord.
qui est dans la quarantaine, dont on ne connaîtra jamais le nom de famille. Bon, c'est qui cette femme? C'est sociopathe, c'est une détraquée, c'est une mal-aimée. Puis comment a-t-elle pu poser un tel geste?
Exactement.
Alors, l'auteur nous donne des indices puis nous propose des pistes de réflexion
okay.
pour la connaître. Cette Louise qui déteste les week-ends, cette Louise dont la fille a quitté la maison sans avertir et qui n'a rien fait pour la retrouver. Cette Louise qui vit dans une grande solitude avec ses fantômes et ses dettes. Mais on la découvre également à travers les commentaires toujours fort élogieux de ses anciens employeurs.
Ah oui!
On la découvre aussi par son appartenance à la communauté des nounous, qui se retrouve quotidiennement dans un parc avec les tout-petits. Communauté fort intéressante, d'ailleurs.
Oui.
Et on la découvre par son rapport affectueux et très ludique avec les deux enfants. Leïla Slimena, comme je le disais, nous propose des pistes de réflexion et c'est à nous, en fait, de retisser la toile.
Mm-hmm.
Et comme je l'ai dit précédemment, Chanson douce, c'est un roman psychologique, mais c'est aussi le tableau finement ciselé d'un milieu, d'un milieu social, de rapports sociaux induits par des différences de classe.
Mm-hmm.
Parce que les deux personnes centrales de ce livre, parce que le deuxième, personnage central de ce livre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vraiment ce jeune couple dans la trentaine qui ont engagé Louise. Alors, il y a Myriam, qui est avocate. C'est vraiment le deuxième volet de ce roman. Il y a Myriam, qui est avocate. Il y a son mari, Paul, qui est un producteur de musique. Les deux sont très ambitieux professionnellement. Et puis, ils sont si convenus. Avec leur bonne manière, avec leur bonne conscience.
Autrement dit, ils ne la traitent pas, la Louise, comme la servante qui s'occupe
de
nous.
Non, c'est ça. Ils la trouvent parfaite, leur nounou. Elle est si attentionnée avec leurs enfants et les enfants l'adorent. Elle est si dévouée et si prévoyante à leur égard. Ils l'exhibent, en fait, devant leurs amis comme un trophée qu'ils auraient bien mérité. Et ils en deviennent, et c'est ça qui est un peu pervers aussi dans l'élaboration du roman, ils en deviennent littéralement dépendants. Et parce que dès le début, il y a ce coup de poing, on sait déjà qu'il y aura ces meurtres impossibles, on a tout de suite le souffle coupé et d'entrée de jeu, on a le souffle coupé et il y a une espèce de malaise qui va s'installer tout de suite et qui va durer jusqu'à la fin.
Oui, c'est comme si on apprenait tout de suite que Mary Poppins est un monstre, quoi.
Oui, exactement.
Non, mais
exactement, donc, exactement. C'est drôle que tu dis ça, Clotilde, parce qu'ils vont... Les deux, le couple, ils vont dire à un moment donné qu'elle est un peu comme Mary Poppins.
Ah oui?
Ouais.
Ah ben.
Et puis, le style de Leïla Slimani, c'est un récit, je dirais, très, très, très maîtrisé. Mm-hmm. C'est très habile. Il y a très peu de dialogue.
Ouais.
C'est des phrases courtes. C'est des chapitres qui sont en vrac. Donc, il n'y a pas d'ordre chronologique tel.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment à nous de reconstruire, de reconstituer, puis de comprendre. Et on a peur. C'est sûr qu'on a peur parce que l'on sait. Je dirais âme fragile de s'abstenir.
Oui, c'est ça. Parce que moi, chaque fois que j'ai entendu parler de ce livre-là, Francine, j'ai entendu parler d'un livre terriblement dur, à la limite du supportable.
Ouais.
Dans certains passages, quand même.
Ben, en fait, c'est les premières pages qui sont insupportables. Parce que, bon, deux enfants qui sont
bien
tués.
Sûr, assassinés, oui.
Mais après, on a peur et on se dit, mon Dieu, c'est en train de se préparer.
On ne sait pas
quand. Bon, il y a des failles, il y a des failles, il y a des failles. Mais que les, le couple ne peut pas avoir parce qu'elle est si parfaite. Mm-hmm. Mais je ne vous dis pas pourquoi. Alors, ce n'est pas seulement un drame, mais ce n'est pas seulement un drame, ce n'est pas seulement un roman policier, c'est aussi, je pense, et ça, pour moi, ça a été, ça donne de la valeur au livre, c'est vraiment une réflexion sociale.
Sociale, exactement.
Importante, hein. Vraiment comme une dénonciation de ce monde-là aussi.
Est-ce que vous avez un petit extrait à
ouais,
nous
je
lire?
Pourrais vous en lire un tout
j'apprécierais,
petit
oui. Oui.
Ouais. Au tout début, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est avec eux.
Oui. Elle cherche en
voilà.
Francine. Voilà, ça y est, elle
la
a
nuit,
trouvé sa ligne.
Ouais. La nuit, dans le confort de leur drap frais, le couple rit, incrédule, de cette nouvelle vie qui est la leur. Ils ont le sentiment d'avoir trouvé la perle rare, d'être bénis. Bien sûr, le salaire de Louise pèse sur leur budget familial, mais Paul ne s'en plaint plus. En quelques semaines, la présence de Louise est devenue indispensable. Le soir, quand Myriam rentre chez elle, elle trouve le dîner prêt. Les enfants sont calmes et peignés. Louise suscite et comble les fantasmes de famille idéale que Myriam a honte de nourrir. Elle apprend à Mila à ranger derrière elle et la petite fille accroche sous les yeux ébahis de ses parents son manteau à la patère. Les biens inutiles ont disparu. Avec elle, plus rien ne s'accumule. Ni la vaisselle, ni les vêtements sales, ni les enveloppes qu'on a oublié d'ouvrir et qu'on retrouve sous un vieux magazine. Rien ne pourrit, rien ne se périme. Louise ne néglige jamais rien.
Ah oui, non, c'est vraiment Miss Perfection, hein?
Ouais. Et c'est écrit comme ça, c'est des petites phrases. C'est, c'est comme, je dirais, si c'était un tableau, ce serait de petites touches. Tout le temps.
De petites touches.
Ouais.
Je lisais quelques critiques glanées dans les journaux à droite et à gauche et j'aurais voulu savoir, vous, ce que vous en pensiez. Par exemple, dans Le Point, en octobre 2016, on écrivait « Leïla Slimani va terroriser tous les parents qui travaillent et font appel à une nounou. » Est-ce que réellement, on pourrait se poser des questions? Non, mais tu sais, à savoir...
Ouais, absolument.
Absolument?
Oui.
Ah oui, hein?
Absolument. Moi, je pense
bon.
Absolument, oui. Parce que parce qu'ils vont faire... Avant, pour l'engager, cette nounou-là, ils vont faire plusieurs entrevues.
Oui, oui,
ils se
oui,
sont
oui,
fait,
oui.
Ils se sont fait vraiment des critères très stricts. Oui, mm-hmm. Elle peut être étrangère, mais il faut qu'elle ait des papiers. Parce qu'elle n'a pas de papiers, elle n'osera pas les amener à l'hôpital. Oui. Ils ont appelé tous ses anciens employeurs. Mais tous les anciens employeurs n'avaient que des commentaires élogieux, et elle était parfaite. Et leurs amis, ils trouvaient qu'elle était parfaite. Vous comprenez?
Oui, oui, je comprends.
Alors,
tout à fait.
Donc, ouais. Oui, absolument. Moi, je pense qu'être mère et avoir engagé une nounou, oui, 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 tout à fait.
Alors, il y a aussi, parmi tout ce que j'ai lu, hein, les critiques, ça, j'ignorais ça, et je ne sais pas si vous le saviez, mais on nous dit que c'est dans Bibliops que Chanson douce est un remake, comme disent les Français, ultra contemporain des Bonnes de Jean Genet, vous savez, qui est une pièce hein, de théâtre. Et comme son modèle, il appuie exactement là où ça fait mal. Et j'ai bien aimé lire ça parce que je me suis dit, tiens, il faudrait que je me remette en mémoire les Bonnes pour aller faire.
Oui, idée, ouais.
Exactement, pour aller voir, effectivement. L'autre référence, on pense au roman de Delphine de Vigan, dont on a parlé ici tellement souvent,
ouais.
D'après une histoire vraie, pour l'art de la manipulation.
Oui.
Parce que c'est quand même une manipulation énorme que cette Louise-là, elle les manipule de A à Z. Alors en tout cas, très intéressant que cette chanson douce,
ouais.
Un livre pas facile, hein, je le dis, si vous êtes parent, d'enfant, si vous, c'est pas évident, mais si vous aimez la belle littérature, la bonne littérature,
oui, oui,
la belle
écrit,
écriture, c'est écrit de façon magistrale,
oui,
sans fioritures. Hein, c'est une écriture très, très incisive,
oui,
très directe.
C'est intelligent.
C'est très intelligent.
Intelligent.
Et c'était présenté par l'intelligente Francine Fontaine, qu'on adore, et qui va continuer avec cette douce voix à vous lire des livres, puisqu'elle est bénévole ici, lectrice, chez Vues et Voix. Merci Francine, à bientôt.
Ça m'a fait plaisir.
Salut. Et puis, des nouvelles et des livres. Eh bien, bonne nouvelle pour Andrea Michaud, que j'ai du reste invité à venir à cette émission. Espérons que cela pourra, que ça pourra se faire. Andrea Michaud, vous savez, c'est cette femme dont on a beaucoup parlé pour ce livre qui s'appelle Bondré, B-O-N-D-R-E, publié aux éditions Québec-Amérique et enregistré et disponible via SQLA et CAEB, et qui avait reçu, et qui a reçu d'ailleurs là, hein, et c'est un autre prix. Elle a reçu le prix Rivage en 2017, un prix qui salue un roman policier et qui est décerné par non moins de 97 personnes qui sont des libraires, qui sont européens, des libraires de France, de Belgique et de Suisse. Donc, Bondré a été publié en France à l'automne 2016. Et c'est un roman qui, faut-il le rappeler, a déjà remporté le prix du gouverneur général du Canada ainsi que le prix du lecteur Quai du Polar 20 minutes décerné lors du 13e festival Quai du Polar à Lyon. Le résumé, hein, rapidement, c'est une jeune fille, nous sommes en été 67, qui disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac aux confins du Québec et qui a été rebaptisé Bondré par un trappeur enterré depuis longtemps. Cette jeune femme est retrouvée morte avec une jambe déchirée par un piège rouillé. L'enquête conclut à un accident. Zaza Mulligan a été victime des profondeurs silencieuses de la forêt. Mais lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour, on comprend que les pièges du trappeur ressurgissent de la terre et qu'un tueur court à travers les bois de Bondré. Une écriture absolument raffinée, écrivait-on absolument dans les journaux au service d'atmosphères angoissantes et de subtiles explorations psychologiques, écrivaient plusieurs journalistes à ce moment-là. Bondré, je vous le rappelle donc, a reçu, oui ça je vous l'ai déjà dit, le prix du gouverneur général du Canada en 2014 et puis le prix Saint-Pacôme du roman policier également. Mais on en parle à nouveau de Andrea Michaud avec un livre qui, je vous le dis tout de suite, va être lu prochainement, qui n'est pas encore disponible via SQLA ou CAEB, mais c'est une question de semaine. Peut-être même qu'au moment où cette émission sera diffusée, il sera déjà disponible. Et ça s'appelle « Route secondaire ». Route secondaire, il y est question d'une femme qui s'appelle Heather Thorne. C'est une jeune femme qui est frappée d'amnésie, qui ne sait plus si elle existe vraiment ou si elle n'est que le double d'une inconnue croisée par un jour d'octobre. Et qui est Andrea Michaud? Ça aussi, ça fait partie du bouquin. Cette écrivaine qui se demande, elle, si elle n'a pas usurpé la place d'une morte et si son véritable nom n'est pas Heather, comme Heather Thorne. Regardant défiler les saisons, nous dit-on ici dans ce résumé, depuis les fenêtres de son bureau, l'écrivaine va tenter de déterminer de quel passé trouble a surgi la jeune femme qui l'obsède, parce qu'elle est bel et bien obsédée par cette jeune femme, qui menace de l'entraîner au cœur d'une forêt, tiens, encore une forêt, comme dans Bondré, où elle sera dévorée par sa propre histoire. Rappelons, pour parler un petit peu de Madame Michaud, qu'elle a été récipiendaire de tellement de prix, hein, je vous l'ai dit, mais non seulement ici au Québec, mais également en Europe. Et j'ai pour vous un petit extrait de ces routes secondaires, le dernier opus donc de Madame Andrea Michaud. Et voici l'extrait. J'essuie le miroir du plat de la main, approche mon visage du reflet embué qui cherche à me reconnaître, plonge mes yeux dans le regard inquiet que mon souffle embrume de nouveau et murmure « Je m'appelle Heather, Heather Thorne », en même temps que mon reflet inquiet. Heather Waverly Thorne, c'est mon doppelganger, dis-je, enfin, à celle qui me regarde, mon double, et puis je me mets à rire, consciente, qu'après m'être camouflée derrière tant d'autres doubles, je me trouve aujourd'hui devant l'exacte et fantomatique contrepartie de moi-même. Doppelganger, ça veut simplement dire miroir, miroir à deux faces, hein, je le précise. Donc devant l'exacte et fantomatique contrepartie de moi-même, issue de je ne sais quel univers fantasmatique, de je ne sais quel monde parallèle, destiné à rencontrer le mien pour que, devant les miroirs, je demande lequel de mon reflet ou de moi détient une quelconque vérité. Et je ris, pendant que s'effritent les miroitements. Voilà, c'est du Andrea Michaud que j'espère bien recevoir dans quelques semaines pour vous, pour qu'elle nous parle un petit peu plus de ses routes secondaires et qu'on revienne sur Bondré. Alors, j'ai toujours pour habitude de vous présenter quelques titres en rafale. Je vais commencer par un livre que je ne l'ai pas retrouvé au moment de me préparer à faire cette émission-là. Mais c'est un livre, vous savez, de cette chanteuse qui s'appelle Natacha Saint-Pierre. Eh bien, cette jeune femme-là, on en parle beaucoup moins. On en avait parlé à un moment donné parce qu'ils avaient fait un clip avec elle où elle était déguisée en chef indien. C'était en tout cas, évidemment, ici au Québec. Tout le monde... Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Bon, on la voit moins parce que cette jeune femme a mis au monde un enfant qui souffre d'un problème au cœur qui nécessite une bagarre quotidienne. Et c'est cette bagarre qu'elle raconte dans ce livre qui s'appelle « Mon petit cœur de beurre ». Et c'est un livre très, très, très touchant. Donc, j'avais envie de vous le soumettre dans les titres en rafale. C'est maintenant disponible via SQLA ou CAEB. Une pièce, tiens, oh, une pièce, que dis-je, un morceau d'anthologie. Cette pièce d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur, pièce en deux actes, faut-il faire ce petit résumé, nous sommes une nuit, cerné par les hauts blocs d'immeubles enserrant sa petite maison, un homme plante des graines à la lumière d'une lampe de poche. C'est un homme, comme tant d'autres, fasciné par l'argent et la réussite, qui arrive au bout de 30 années de travail dans la même entreprise. Et cet homme-là, vous vous en souvenez peut-être, oui, pour l'avoir lu ou vu, cet homme-là, il va perdre son emploi. Et du coup, il va décevoir irrémédiablement sa femme et ses deux fils. Si bien que lorsque la pièce commence, il est déjà dans la déception et dans la culpabilité. Il se sent déjà perdu. C'est vraiment un texte absolument magnifique d'Arthur Miller. Dans la presse, Mario Cloutier avait écrit après la présentation de la pièce en octobre 2017. Il y avait eu une présentation à Montréal et c'était Marc Messier qui avait repris le rôle de Willy Loman. Alors, il avait écrit, Mario Cloutier, « Il est davantage une victime qu'un bourreau, un rêveur qu'un manipulateur. Il est le visage de l'Amérique d'après-guerre, aveuglé par le succès et les profits. » Vite fait. Il est le parfait soldat d'un modèle capitaliste où l'on croit quiconque promet un fantasme impossible à réaliser. Ça, je pense l'avoir déjà évoqué, mais ça fait rien, je l'évoque une deuxième fois, parce que oui, c'est vrai, c'est un auteur que j'adore, c'est un Québécois, c'est un écrivain merveilleux, c'est M. Michaël Delisle qui nous revient avec Le Palais de la Fatigue. Voir un homme abandonner son œuvre me fait de la peine, c'est mon côté hystérique, c'est pour ça que je persiste, même si le terme se dessine. Je travaille avec une ambition de plus en plus élémentaire, j'écris pour voir à quoi la vie ressemble une fois écrite. Il ne s'agit pas d'un roman, mais bien d'un recueil de nouvelles que Le Palais de la Fatigue de Michaël Delisle, six nouvelles écrites avec la sensibilité frémissante qui appartient à cet écrivain qui, je vous le rappelle, moi, est vraiment un de mes préférés. Vous êtes beaucoup à adorer l'histoire, vous êtes certainement beaucoup à ne pas adorer Thierry Ardisson, c'est celui qui a créé Tout le monde en parle, on sait que c'est un type qui peut être un affreux bonhomme, voire ignoble, hein, odieux, il faut bien le dire. Mais saviez-vous que ce bonhomme est aussi un très bon écrivain et un très bon historien? Et comme vous êtes nombreux à aimer l'histoire, eh bien j'ai eu envie de vous proposer Les fantômes des Tuileries de Thierry Ardisson. Dans un palais qui n'existe plus, il s'agit là du destin de cinq petits dauphins qui n'ont jamais régné. Alors qui sont-ils? Louis XVII, le fils de Louis XVI, qui a été séquestré, très jeune, dès l'âge de 8 ans, à la prison du Temple, qui a été ensuite victime d'un lavage de cerveau. Il est question aussi de Napoléon II, le fils de Napoléon Ier. Il y est question de Louis-Philippe II, d'Henri V, le petit-fils de Charles X, et de Napoléon IV, le fils de Napoléon III. Alors, amoureux, fervent d'histoire, ce livre va vous passionner, Les fantômes des Tuileries. La semaine prochaine, à l'émission, je sais, je vous l'avais déjà annoncé, mais vous savez comment c'est, parfois, la vie, on est obligé de faire quelques changements si les invités ne sont plus disponibles. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines Jean-Fred Bourquin, à qui l'on doit sa biographie fantastique, qui s'appelle Paul Buissonneau en mouvement. Monsieur Buissonneau, vous le savez, maintenant décédé, cet homme de théâtre, tellement apprécié malgré sa grande gueule de français, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est le genre de bonhomme qui aurait pu être haï littéralement par la communauté québécoise, mais il a tant fait pour le théâtre et avec cette grande gueule, comme on dit, ben c'est vrai qu'il y avait un grand cœur qui était aussi immensément ouvert que l'était sa bouche quand il criait et parlait fort. Et monsieur Jean-Fred Bourquin a demandé à plein d'amis à lui, dont Marcel Sabourin, Yvon Deschamps, Michel Tremblay et d'autres, de nous parler de Paul Buissonneau. J'en parle avec Jean-Fred Bourquin la semaine prochaine. Alors voilà, merci à mes invités du jour, Gérard Saint-Denis, Éric-Emmanuel Schmitt et Francine Fontaine. Merci également à Mathieu Tessier de l'autre côté en régie. C'était Clotilde Seille qui continue de préparer tous les ans, toutes les semaines, cette émission pour vous encourager à aller vous chercher des livres au SQLA ou au CAEB. Je vous souhaite une belle semaine, belle lecture. À la semaine prochaine. Salut.